Donc, vous pouvez proposer des questions, des thématiques. Le tout sera soumis donc au vote. Vous pouvez voter autant de fois que vous le désirez. Le sujet qui remporte le plus de voix sera le sujet choisi pour être traité ce soir. Si jamais il y a des ex-échos, on repasse au vote, mais là on ne peut voter qu'une seule fois, histoire de départager donc les deux sujets en compétition. Voilà. Ensuite, nous avons ici Marie-France, la présidente de Philomania. Marie-France, est-ce que vous voulez présenter Philomania en quelques mots?
Oh, c'est peut-être pas utile, je pense que vous avez dit l'essentiel. Juste peut-être préciser pour le débat, on écoute la personne qui parle, on ne l'interrompt pas. Et on écoute toujours avec beaucoup de respect, même si on n'est pas d'accord, parce que c'est aussi la garantie que quand on s'exprimera pour donner une opinion divergente, eh ben on sera aussi écouté avec beaucoup de respect. Et on termine toujours le débat d'abord par la conclusion de là où le philosophe qui anime, et on tient beaucoup à la parité, donc en alternance, c'est une fois Laurence, une fois Nicolas qui se cache quelque part, qui anime, voilà, on est très respectueux de la parité. Et après la conclusion, on clôture par un pot pour avoir l'occasion de discuter entre vous, si vous le souhaitez, parce que pendant le débat, il y a quelqu'un à l'autre bout de la salle qui a dit quelque chose qui vous a interpellé. Ou simplement aller poser une question en privé avec le ou la philosophe qui reste toujours pendant le pot. Et en dehors des cafés philo, on organise 2 ou 3 conférences par an. Mais là, pour cette saison, c'est terminé. Il faudra attendre la rentrée de septembre pour avoir de nouvelles conférences. Alors, n'hésitez pas à nous écrire sur notre adresse mail s'il y a des sujets qui vous intéressent, que vous aimeriez qu'on traite via les conférences. On tient compte de vos suggestions dans toute la mesure du possible.
Voilà, merci beaucoup. Donc maintenant, la parole est à vous. Est-ce que vous avez des sujets à proposer? Des questions que vous aimeriez voir traitées? Des thématiques à soulever? Oui.
Bonsoir. Tout d'abord, nouveau VTC passif par à 8h parce que je dois aller chercher ma fille à la piscine, donc ce sera pas parce que je suis fâché et que j'ai pas envie de parler avec vous, mais je serai un peu pressé. Sinon, c'est la troisième fois que je participe à une soirée Philomania, donc pour moi c'est une expérience de pensée collective, je trouve ça très intéressant. Mais les deux premières fois, les sujets abordés, à mon avis, ne permettaient pas à beaucoup de personnes, en tout cas pas à tout le monde, de participer. C'était bien dommage, parce que si je viens, moi, participer à une telle expérience, c'est pour entendre des gens qu'on n'entend pas et les entendre parler de sujets qui sont traités par d'autres, toujours de la même manière dans les médias. Et là, j'aimerais bien pouvoir entendre tout le monde. Et bon, le sujet qui m'intéresserait... c'est donc un sujet sur lequel je ne trouverai pas de livre, bien que je suis très intéressé par la lecture, mais à mon avis, justement, ce n'est pas le but de ce genre de soirée. Et là, j'aimerais savoir, par exemple, ce qui limite chacun de vous dans sa capacité à être heureux tous les jours. Pour ceux qui travaillent, ça peut être une limite imposée par les conditions de travail ou les conditions au travail. Et pour les autres, qu'on soit retraité ou étudiant, ça peut être autre chose, mais qu'est-ce qui limite la capacité de chacun d'entre vous à être heureux.
Voilà. Qu'est-ce qui nous limite dans notre possibilité à être heureux, dans notre capacité à être heureux? Ce serait ça le sujet.
Oui, mais plutôt que quelque chose d'abstrait dans qu'est-ce qui nous limite, qu'est-ce qui limite chacun d'entre nous? Enfin, ça peut être très personnel, mais le fait justement qu'on soit nombreux et le fait que ce soit des expériences personnelles, ça enlève tout le côté théorique. Le côté pensée, qui ne veut pas dire que ça ne donnera pas lieu à des réflexions que ça ne va pas nourrir la pensée, mais ça la nourrira de manière très concrète.
D'accord. Donc, qu'est-ce qui limite chacun d'entre nous à être heureux? C'est ça? À atteindre le bonheur.
Dans la vie quotidienne.
Dans la vie quotidienne. Ok. Alors, je me permets juste de rebondir effectivement sur ce que vous avez dit. Il est vrai que à Philomania, on va vous laisser la parole, bien sûr, hein, c'est une réflexion collective, mais les gens qui demandent la parole pour la première fois, qui ne l'ont pas eue, sont toujours du coup prioritaires sur ceux qui sont déjà intervenus une ou deux fois, histoire justement que tout le monde puisse participer et ose participer. Voilà. Oui. Oui. Alors, on va vous passer un micro, madame. Voilà.
Oui, j'ai aussi un sujet sur le bonheur. En fait, j'ai découvert une phrase de Kant qui disait « Le bonheur est un idéal de l'imagination et non de la raison.
Mm-hmm. » Qu'en pensez-vous ?
Que peut-on en penser ?
Voilà. Donc, le bonheur est-il un idéal de l'imagination ou bien de la raison ? Comme ça,
non, c'est une affirmation.
Donc, on part de la citation de Kant,
oui,
alors. Donc, ok. Enfin, donc, oui, si vous voulez. Le bonheur, donc, est un idéal de l'imagination et non de la raison. D'accord.
Merci. Oui. Moi, je propose, est-ce que l'oubli est nécessaire à la vie humaine ?
D'accord. Donc, troisième sujet, est-ce que l'oubli est nécessaire à la vie humaine ? Oui, alors, un micro.
Ça va ?
Merci. Oui, moi, je pensais à la société actuelle nous empêche-t-elle de penser par nous-mêmes ?
D'accord. Donc, la société actuelle nous empêche-t-elle de penser par nous-mêmes ?
Merci. J'ai une question qui me taraude régulièrement. C'est comment composer avec la bêtise ? Il n'est pas impossible qu'il y ait une suite avec la vôtre.
Comment composer avec la bêtise ? Oui.
Alors, la vieillesse est-elle un bienfait ?
La vieillesse est-elle un bienfait ?
Alors, le droit humain doit-il être respecté partout de la même façon sur la planète, quoi, dans le monde ?
Donc, le droit humain doit-il être respecté partout sur la planète ? Le droit humain est-il universel ? Hein ? Voilà. Le droit humain est-il universel ? Vous avez d'autres propositions ? Non ? Ça nous fait un nombre de...
Sept sujets.
C'est bien, je vous propose de passer au vote. Alors, voilà.
Donc on va redire d'abord les sujets avant de voter. Donc le premier sujet, qu'est-ce qui limite chacun d'entre nous pour atteindre le bonheur dans la vie quotidienne ? Deuxième sujet, le bonheur est un idéal de l'imagination et non de la raison. Troisième sujet, est-ce que l'oubli est nécessaire à la vie humaine ? Quatrième, la société actuelle nous empêche-t-elle de penser par nous-mêmes ? Cinquième sujet, comment composer avec la bêtise ? Sixième, la vieillesse est-elle un bienfait ? Septième, le droit humain est-il universel ?
Ok, premier sujet.
Qu'est-ce qui limite chacun d'entre nous pour atteindre le bonheur dans la vie quotidienne ?
Voilà, donc qu'est-ce qui limite chacun d'entre nous dans le fait d'atteindre le bonheur ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Deuxième sujet, le bonheur est un idéal de l'imagination et non de la raison.
Je vous rappelle que vous pouvez voter autant de fois que vous le souhaitez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Troisième sujet, est-ce que l'oubli est nécessaire à la vie humaine ?
Sujet sur l'oubli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux dire que vous avez levé la main après ?
Après, j'ai levé la main.
Donc 25 ? 25. Ok.
Quatrième sujet, la société actuelle nous empêche-t-elle de penser par nous-mêmes ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Comment composer avec la bêtise ?
Comment composer avec la bêtise ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
La vieillesse est-elle un bienfait ?
La vieillesse est-elle un bienfait ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Le dernier, le droit humain est-il universel ?
Le droit humain est-il universel ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Alors, le gagnant est « Est-ce que l'oubli est nécessaire à la vie humaine ?» avec 25 votes.
D'accord. Qui a proposé le sujet sur l'oubli ? Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être introduire le sujet ou la question ?
Bon. Ce que je constate, c'est que les ordinateurs ont des mémoires de plus en plus grandes. Il y a 20 années, on parlait en kilooctets. Ensuite, ce sont des gigas. Ensuite, ce sont des mégas, des gigas, des téras, etc. Donc, on peut penser que l'homme, on va lui adjoindre une mémoire, soit en bricolant le neurone de façon astucieuse, soit en rajoutant un module et qu'on pourra avoir une mémoire extrêmement grande, voire infinie. Est-ce qu'un homme, un humain doté d'une telle mémoire, il est capable de répondre immédiatement à toute question qu'on lui pose ? Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est possible de vivre de cette manière-là ?
Donc, tout savoir, ça serait ça, hein ? Voilà, avoir connaissance de tout, est-ce que c'est une vie souhaitable pour nous autres humains que nous sommes ?
Il faudrait peut-être définir l'oubli.
Oui, madame ?
Juste un mot. Il me semble qu'on vit déjà avec ces mémoires. Pour autant, on est autant pas obligé de suivre. Et ça n'empêche que les sciences, la recherche, l'histoire, fait que quelque chose qui était vérité il y a, mettons, 100 ans ou 2000 ans, ne l'est plus aujourd'hui. Je pense que dans le système de l'oubli, il y a aussi réviser les savoirs.
Oui, la refonte du savoir. Oui, oui. Mm-hmm. Alors, dans un sens positif ou négatif, vous l'entendez ?
Les deux ?
Les deux ? Oui, le fait que la mémoire se travaille et se retravaille et se reforme.
Aux découvertes de la science.
Oui. Mmh. L'histoire, l'histoire, mmh. Les preuves. Oui. Mmh. C'est vrai que ça marche aussi très très bien avec l'histoire. Hein. Ouais. L'histoire s'écrit, se réécrit.
L'histoire des sciences aussi.
et puis l'histoire des sciences. Oui. Oui.
Oui. Alors, peut-être qu'on pourrait aborder aussi le sujet sur la perte de mémoire volontaire ou pas, hein, par rapport à l'existence, des résiliences ou pas qui sont vécues, ou alors perte de mémoire parce que on s'écarte de trop de connaissances. On veut s'écarter de trop de connaissances et donc on souhaite limiter notre champ, notre pensée à quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup moins large. C'est, en fait, vous proposez de la mémoire de plus en plus grande, hein, où l'homme sera peut-être... Voilà, immédiate à disposition. Et puis, moi, je te propose plutôt du côté où on limite, hein, où il y a peut-être en fonction de l'individu une auto-limitation de mémoriser. Mm-hmm.
Ouais. Oui. J'aurais tendance à dire l'oubli de quoi ? Parce que si c'est, par exemple, un traumatisme... bien entendu, il est nécessaire à un moment donné, peut-être pour se reconstruire, quand même d'oublier, si on peut oublier. Mais au moins que ce traumatisme prenne une moins grande part, on dirait. Donc là, effectivement, je pense qu'il est nécessaire d'oublier. En plus, je pense que c'était peut-être Socrate qui disait « J'ai une bonne mémoire, j'oublie tout. Mm-hmm. » Voilà. Moi, je pense que dans certains moments chocs de la vie, des épreuves, on aimerait que ça passe très vite et on aimerait oublier très vite.
Mm-hmm. Oui.
Moi, c'est pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Il y a quand même pas mal de fois où les traumatismes, même s'ils sont oubliés de façon consciente, ils ressortent quand même d'une façon ou d'une autre au niveau du corps. Et du coup, il y a quand même pas mal de thérapies qui existent pour se souvenir, pour reconscientiser le trauma dans un cadre sécuritaire, de façon à guérir autant que possible le trauma pour que la personne puisse avancer. Il y a quand même pas mal de fois où il y a des choses enfouies qu'on est obligé d'aller récupérer pour guérir la personne, parce que ça finit forcément par somatiser d'une manière ou d'une autre. Donc, sur l'oubli de façon générale, je pense que oui, il est nécessaire d'oublier des choses pour avancer. Sur les traumas, j'avoue que je suis un peu moins d'accord.
Mmh. Oui, moi, c'est aussi un petit peu par rapport à ça. Si on voit le sujet, est-ce que l'oubli, c'est pas la mémoire ? Est-ce que l'oubli est nécessaire à la vie humaine ? Donc, qu'est-ce que c'est que la vie humaine ? Et c'est vrai que je me dis que l'oubli collectif, on peut pas, par exemple, effacer la Shoah, même s'il y en a qui souhaiteraient. Et c'est nécessaire à la construction de la vie humaine dans son ensemble, c'est-à-dire à l'humanité. Après, l'oubli individuel, peut-être qu'il est nécessaire pour chacun, pour effectivement des traumatismes ou des choses comme ça, ou pouvoir tourner des pages et puis continuer à vivre. Donc c'est aussi la vie humaine. Peut-être aussi le problème de la traçabilité, c'est-à-dire que l'oubli, chacun, on peut oublier des choses, tourner la page, faire une thérapie, ou enfin bon, tout ça, pour comprendre ce qui se passe, et ça est beaucoup dans la mémoire. Mais aussi, est-ce que la collectivité, les traces dans les mémoires d'ordinateur, toutes ces choses-là qui sont la mémoire, est-ce que ça peut desservir l'individu ? C'est-à-dire que d'autres personnes que lui, pour des raisons qui sont pas collectives, qui sont propres, peut ressortir à un moment donné n'importe quoi sur n'importe qui, parce qu'il y a une trace justement dans les mémoires d'ordinateur. Ou voilà, est-ce qu'à un moment donné cet empilement de traces, c'est même pas des mémoires, mais peut nuire à la vie des individus contre leur gré.
Le fait que rien ne s'efface, voilà, ça serait ça, hein, le fait que rien ne s'efface pourrait être effectivement un élément négatif.
Un frein à la vie humaine, au sens où chacun est maître, enfin, peut être libre de sa vie tout au
moins. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, ce qui me semble intéressant, déjà, c'est vrai qu'on travaille sur la logique du souvenir ou de la mémoire, et il y a déjà différentes formes de mémoire qui apparaissent. Hein. Il y a la mémoire individuelle, ou en tout cas ce qui relèverait de l'histoire individuelle, des événements vécus, qui peuvent être positifs ou négatifs, mais ce qui pose problème, ça paraît bien être le trauma. Et puis après, il y a l'histoire collective. Donc aussi bien au niveau des sciences, au niveau de la culture, voilà. Et donc, est-ce que l'oubli se vit de la même manière dans les deux cas ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait l'identité des êtres que nous sommes ? Est-ce que le rapport que nous avons à notre histoire n'est pas absolument fondamental pour savoir qui nous sommes et donc nous projeter dans l'avenir ? C'est vrai qu'on dit souvent aujourd'hui qu'il y a une perte, par exemple, de conscience politique, voilà, d'engagement politique. À partir de là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on sait encore d'où nous venons et quelles sont nos racines ? Et je pense, par exemple, de façon assez générale, sur une forme d'oubli assez radicale liée à la destruction, à l'incendie de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Là, tout d'un coup, tout est parti en fumée, voilà, de ce qui nous précédait dans notre civilisation. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Est-ce qu'on y a gagné quelque chose ? Qu'est-ce qu'on a perdu aussi ? Voilà. Donc, l'oubli, c'est peut-être tout oublié, et puis comme on l'a vu, c'est peut-être aussi nécessité de mettre en place une certaine forme de tri. Donc qu'est-ce qu'il faut trier parmi nos souvenirs ? Qu'est-ce qu'il faut garder ? Qu'est-ce qu'il faut pas garder ? Comment on fait pour oublier ? Qu'est-ce que j'ai fait hier à 16h15 ? Est-ce que c'est, voilà, est-ce qu'il faut le garder ? Est-ce que toute forme d'oubli, me permettrait de mieux vivre ou pas ? Est-ce que ça soulagerait pas ma conscience un petit peu d'oublier ? J'ai de la mémoire, donc j'oublie, parce que peut-être que ce que j'ai en mémoire, après tout, c'est pas si important que ça non plus. Est-ce que tout doit être gardé ? Voilà. Est-ce que tout doit être tracé ? C'est vrai que c'est une vraie question, ça. Est-ce que j'ai le droit au changement aussi, peut-être ? Voilà, si on se souvient de tout de ce que j'ai pu faire, de tout ce que j'ai pu dire, est-ce que je suis toujours la même 20 ans après ? Est-ce que je suis toujours responsable ? Des photographies qui peuvent ressortir sur le net, des manifestations que j'ai pu faire quand j'avais 16 ou 17 ans. Est-ce que j'ai encore à en répondre ou pas ? Qu'est-ce qu'on doit oublier ? Si l'oubli est nécessaire à la vie humaine. Est-ce qu'on doit tout oublier ou pas ? Oui.
Au niveau collectif, il me semble que tous les savoirs et toutes les compétences sont bâties justement sur la mémoire de ce qui existait avant. Mozart n'aurait jamais composé ce qu'il a composé s'il ne s'était pas souvenu, il a même connu, de ce qu'avait fait Haydn avant lui. De ce qu'avait fait Haydn, s'il ne s'était pas souvenu de ce qu'avait fait Bach avant lui. En science, c'est exactement la même chose, même si parfois la nouvelle théorie scientifique se construit par opposition à celle qui existait avant, elle ne l'oublie pas. Alors, en revanche, au niveau individuel, je crois que très souvent, nous avons ce qu'on appelle une mémoire, en référence à l'ordinateur, mais ça fonctionne très différemment pour l'humain, une mémoire vive et une mémoire morte. Et on met souvent dans notre mémoire morte les données dont on n'a pas besoin dans l'instant. Et si un jour on se retrouve dans une situation nouvelle, où ces données qu'on croyait avoir oubliées deviennent nécessaires, eh bien elles ressortent et notre mémoire les retrouve. Donc, on a aussi une possibilité d'avoir un oubli temporaire sélectif.
Est-ce qu'il vous est possible de donner un exemple, s'il vous plaît ? Là, je vous en prie, Marie-France.
Sur la mémoire vive et la mémoire morte, j'ai un exemple très personnel. J'ai fait des études de pharmacie, puis après j'ai divergé, j'ai fait de la recherche en allergologie. Je pensais avoir oublié quasiment tout ce que j'avais appris de la pharmacie classique. Le jour où mon mari a été malade, tout est revenu.
instantanément, à ma grande surprise.
Merci. Oui, après, par rapport à ça, et à ce qui a été présenté dans la présentation de sujet, c'est-à-dire les mémoires d'ordinateur, qui sont, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, mais consciemment, par la technologie, la mémoire d'ordinateur, elle garde tout ce qu'on lui demande de garder. La mémoire individuelle, humaine, je dirais, inconsciemment, elle fait du tri. Elle ne choisit pas de garder telle ou telle chose, et même, à notre insu, elle reconstruit des choses et qui nous semblent la vérité ou la réalité, qui ne le sont pas, qui peuvent être des fois confrontés justement à une photographie. On était persuadé que c'était l'été, il s'est passé ça, on voit la photo, on trouve une photographie, mais c'était l'hiver. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui échappe à la logique de trace et de conservation, de souvenirs qui sont faits pour écrire la mémoire de l'humanité, la mémoire des sciences, la mémoire de l'histoire, qui sont indispensables. Mais cette mémoire-là, elle est pas consciente. Enfin, on ne la construit pas consciemment. Même si on choisit, des fois on dit « Ah, ça, j'ai pas envie de m'en souvenir, c'est un mauvais souvenir », mais on s'en souvient quand même, puisqu'on est obligé de le chasser. On peut pas effacer exprès quelque chose parce que ça va être plus confortable ou moins confortable. C'est complètement inconscient. C'est le contraire, je pense. Enfin, c'est pas le contraire, c'est autre chose par rapport au fait de gens qui tracent, qui mettent sur des disquettes, sur des disques durs, sur tout un tas d'outils qu'on a maintenant, des choses, tout, avec, de manière la même chose, tout a la même importance, juste on garde une photo comme on garde un traité de philosophie, comme on garde une théorie, on garde tout au même niveau, alors que le cerveau humain, c'est pas comme ça. Et effectivement, ça ressort des fois, ça ressort déformé, des fois on a la preuve que c'est déformé, des fois, on ne l'a pas, et on se construit aussi avec des souvenirs déformés qui font qu'on est différent à différentes étapes de notre vie. Et ça nous permet justement d'avancer parce qu'on ne reste pas bloqué sur des choses qui seraient scientifiques, rationnelles, théoriques. Et c'est ce travail de mémoire aussi qui permet peut-être de faire avancer des théories sur les sciences. Sur les... Parce que d'un seul coup, il y a quelque chose qui n'est pas linéaire. Et je pense que... C'est l'humain, ça, en fait. C'est pas la machine qui peut garder, ou même quelqu'un qui recopierait des choses à la main, comme ça s'est fait avant. C'est un autre type de mémoire, mais qui est, je pense, le fondateur de toute l'histoire de l'humanité. Et c'est pas conscient. Enfin, je sais pas si je m'explique bien, mais...
Si, je pense. Donc, il y a différents types de mémoire. Et du coup, différents types d'oubli.
Je pense que ce qui peut faire la nuance entre la mémoire d'un ordinateur qui classe tout justement au même niveau, juste il faut s'en souvenir et point barre, et l'humain, c'est le côté émotionnel en fait, tout simplement, de l'humain. C'est que nous, forcément, les souvenirs ou les vécus à forte connotation émotionnelle, on va s'en souvenir énormément. Les choses du quotidien de aujourd'hui je me suis payé 3 feux rouges et demain et hier j'en avais 4, ça on n'a aucune connotation émotionnelle là-dessus, donc forcément c'est des choses qu'on a plus tendance à oublier, et c'est ce qui peut jouer sur les souvenirs qui ont un intérêt ou pas à être gardés. C'était émotionnellement fort parce qu'on y attache de l'importance, on s'en souvient. C'était émotionnellement faible, c'est un truc qui sert à rien, on s'en souviendra pas.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Et c'est là où on retrouve l'existence humaine. C'est-à-dire qu'est-ce qui m'est utile et qu'est-ce qui peut, à la limite, même m'être nuisible.
Alors, on parle beaucoup de la mémoire du cerveau, etc., mais il y a aussi la mémoire corporelle. Parce que dans la danse, par exemple, quand même, le corps apprend certains gestes, il y a quand même des automatismes qui se créent. Mais on entend beaucoup dire souvent que pour créer, il faut s'oublier. Voilà, une forme de lâcher prise. Donc je me demandais justement si dans la création, voilà, s'il y a des danseuses parmi nous ou des gens qui créent, j'ai l'impression que quand même que dans la création, il faut s'oublier, que l'oubli est nécessaire.
Alors, je ne sais pas s'il faut s'oublier, mais ce qui est intéressant, c'est de travailler entre apprentissage et création. Par exemple, si on reste sur le modèle de la danseuse, avant de devenir danseuse étoile, il a fallu qu'elle apprenne. Et là, c'est dur. Et là, la conscience, elle est extrêmement active. On se rappelle des gestes que l'on doit faire, on les reproduit. Et ça va donner cet automatisme. Et ce qui est intéressant, c'est que l'automatisme, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'oubli. Voilà. C'est-à-dire, j'oublie comment on fait le geste, parce qu'il est tellement incarné, incorporé, qu'il me devient, en fait, naturel. Et donc, voilà. Et c'est ça qui va rendre possible la création, ensuite. C'est que je n'ai plus à penser à faire, je n'ai plus à penser qu'à créer. Donc, oui, là, dans la logique de l'apprentissage, maîtriser quelque chose demande d'oublier, en fait, tous les degrés techniques qui m'amènent à une telle maîtrise. Oui.
Je me demande si l'oubli est vraiment nécessaire, parce que là on parle de l'oubli artistique, mais quand on dit qu'il faut s'oublier, est-ce qu'on parle vraiment d'un oubli, ou est-ce que c'est une manière de dire qu'on ne doit plus être dans l'application et le souci de faire ce que l'on est, de s'impliquer pour reproduire quelque chose, mais il faut que ça vienne de soi, mais ça vient de soi, tout comme quand on parle, l'élocution, on apprend ça quand on est petit, et à la fin on oublie, on parle. On ne cherche pas à utiliser tel ou tel mot. On les a appris et ensuite on les utilise sans y penser. Et je pense que c'est pareil dans tout art. Mais ce n'est pas véritablement un oubli. Et je me demande vraiment si l'oubli est nécessaire. Moi, je ne pense pas qu'il soit nécessaire dans notre vie humaine. Je pense que ce qu'on appelle oubli, notamment pour les traumatismes, là je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par la jeune femme qui est là-bas, parce que effectivement, je pense déjà que quand c'est émotionnel, on n'oublie pas. Ça, c'est ce que disent, je crois, à peu près tous les psychiatres sont d'accord là-dessus. Hein. Le traumatisme, on peut le refouler, mais il reviendra probablement un jour, et sinon, il se manifeste sous d'autres formes. Mais le but, c'est justement de faire remonter le souvenir pour non pas simplement ramener à la mémoire, mais soigner. Soigner et dépasser, justement, cette émotion trop forte. Pour pouvoir l'assimiler, et ensuite, on garde le souvenir, justement. On ne le perd pas après, mais on perd, avec le soin, on perd les conséquences néfastes de la situation qui nous a traumatisés. C'est tout. Mais il n'y a pas d'oubli. Et en fait, ouais, moi, je ne vois pas de cas où l'oubli soit utile. Sauf émotionnellement, quand il est fait, c'est qu'on n'a pas le choix. Souvent, c'est les êtres les plus jeunes, une émotion trop forte, qui ne peut pas être assimilée et qui donc est refoulé. Mais sinon, moi, je vois pas de cas où... Moi, j'aimerais bien avoir une mémoire extrêmement forte, et quand je lis un très gros bouquin, pouvoir le réciter à la fin, me souvenir de tout, je pense que ça m'aiderait dans mon analyse des situations, d'avoir plus de références, plus de bases. C'est pas parce qu'on sait des choses qu'on va forcément copier, on va insérer ces informations dans notre propre pensée. On n'est pas là simplement pour répéter ce que l'on a appris. On n'est pas une bibliothèque. Mais toutes les informations qu'on a, on peut les utiliser pour penser mieux.
Oui.
Mais je pourrais dire aussi que l'oubli peut être pathologique. On peut oublier par rapport à une maladie comme Alzheimer. Mais là, on cherche ses mots, on cherche où j'ai mis mes clés.
Et là, on voit à quel point c'est dramatique.
Voilà. Ouais. Une situation qui peut être très compliquée pour la personne.
À aller jusqu'à la perte du sujet, hein, lorsqu'Alzheimer est en perte.
L'oubli des personnes qui sont en face de soi, on ne se rappelle plus. C'était ma mère, c'était, c'était ma fille, mon fils.
Oui.
Oui, c'est ce que j'allais dire pour Alzheimer, ceux qui ont Alzheimer, par ici.
Ah, oui.
Alors, si l'oubli est nécessaire, ceux qui ont Alzheimer, même genre de type de maladie, alors ça voudrait dire qu'ils vivent bien mieux que nous, alors.
Moi, je m'interrogeais pour rebondir à ce que vous avez dit sur le fait que avoir une mémoire qui, entre guillemets, parfaite, qui se souvient de tout, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a entendu, est-ce que c'est vraiment souhaitable ? Parce que du coup, ça, à mon sens, peut-être que ça pourrait retirer un peu la valeur du travail d'apprentissage, à ce moment-là, n'importe qui peut faire n'importe quelles études et occuper n'importe quel poste. Ça reviendrait à remettre... Enfin, voilà, chacun individuellement a des capacités d'apprentissage, une appétence pour les sciences, la littérature, les arts, ce qui fait que chacun est individuellement différent et que dans la société, tout le monde se complète. Là, si tout le monde savait tout retenir et tout apprendre de la même manière, est-ce qu'on perdrait peut-être pas un petit peu notre individualité ?
On revient sur l'idée de la sélection, en fait. Ouais. Hein ?
Oui, la question que me semble poser de cette façon, l'oubli est-il volontaire ? Parce que si je le pense utile, je vais me mobiliser pour l'utiliser. Mais l'oubli n'est pas tout simplement accidentel, totalement involontaire. Alors accidentel, pas tout le temps passe. Le problème, c'est me semble-t-il, poser le problème de l'oubli actuellement, c'est d'abord de quelle mémoire parle-t-on. Et il me semble qu'au niveau personnel, la mémoire, en fait, c'est un des éléments qui participent à la construction de mon histoire. Et qu'il y ait des oublis, ça, je ne le maîtrise pas du tout. Je fais mon histoire, ou je vis mon histoire avec ce qui me reste. Ça, oui. Mais l'oubli, il est accidentel. Par contre, si on parle de la mémoire informatique, et c'est là qu'il faudrait que moi, la clarification me semble là. La mémoire informatique est à la disposition de l'autre, y compris les traces que je laisse. Ma propre mémoire informatique est à la disposition de l'autre. Et la question de l'oubli se pose à partir du moment où je m'interroge sur l'intentionnalité de l'autre. Il peut être intéressant selon ses intentions, surtout qu'il m'oublie.
Ou il peut aussi créer de l'oubli volontaire, pour le coup.
Ou créer de l'oubli volontaire. Je m'arrête.
Et là,
oui.
Je voulais revenir sur la mémoire collective. On parle souvent des leçons de l'histoire, mais pour tirer les leçons de l'histoire, il faut évidemment se souvenir de ce qui s'est passé, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de se souvenir, il faut analyser. On a vraiment trouvé que la collaboration, c'était quelque chose d'absolument épouvantable, ce qui n'a pas empêché le philosophe Michael Fessel d'écrire en 2018 « Récidive », parce qu'il était frappé de voir qu'en 2018, les articles de journaux ressemblaient de façon hallucinante aux articles écrits en 1938. Donc on n'a pas oublié, mais on n'a pas analysé. Et donc on n'a tiré aucune leçon.
Oui, je rejoignais un peu ce que disait monsieur au premier rang sur le choix de la mémoire. En fait, je pense que autant il est assez facile pour nous, on a notre liberté d'apprendre et de savoir ce que l'on veut connaître, il est beaucoup plus difficile de savoir ce que l'on va retenir un petit peu de toutes nos connaissances. Et je pense que ce qui nous construit, c'est même pas tant ce que l'on va connaître, mais ce que l'on va retenir, ce que l'on va se souvenir de notre vie, parce que c'est ça vraiment qui nous construit sur le long terme. Et effectivement, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. On apprend effectivement parce qu'on veut apprendre et on veut se souvenir. Des fois, on veut se souvenir et on n'apprend pas. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on aimerait bien pouvoir revenir dessus, pouvoir se souvenir et pour lesquelles on n'a pas d'emprise. Et il y a effectivement les émotions qui jouent énormément de manière positive ou négative sur tout ce dont on se souvient. Mais je pense qu'effectivement, voilà, on peut aussi se poser la question de savoir quelle emprise on a sur notre propre mémoire, sans parler effectivement de toutes les dégénérescences qu'on peut ensuite avoir, mais ne serait-ce déjà qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on peut apprendre dans notre vie. Est-ce que tout ce dont on se souvient est vraiment utile? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on préférerait oublier? Donc voilà, ça se joue vraiment sur différentes dimensions.
Non, mais c'est vrai que cette question de savoir si l'oubli est volontaire ou pas semble à la pratique apporter une réponse négative, en fait. Hein. Ça serait que, effectivement, l'oubli, c'est ce qui s'impose de manière assez accidentelle. Et on retrouve là tout le pouvoir de l'inconscient. Même sur les traumas, il y a des choses qu'on voudrait oublier et qu'on n'arrive pas à oublier. Donc on mettrait la volonté à l'épreuve et en fait elle échouerait totalement. Et puis il y a des choses qui ont été vécues qui tout d'un coup s'effacent de la mémoire. Et là je reprendrai le terme que vous avez utilisé. C'est vraiment le problème du refoulement. Alors ce qui est intéressant dans le refoulement, c'est que ça paraît être d'abord une défense de la conscience, justement, pour pouvoir continuer à vivre. Parce qu'il y a des choses qui ont été vécues qui sont tellement insupportables qu'on se demande même comment une vie humaine peut se poursuivre après cela. D'où la défense psychique fait que, tout d'un coup, le trauma est pris et il est refoulé dans l'inconscient. Le problème, c'est que si c'est oublié, c'est pas pour autant effacé. C'est-à-dire, on ramène pas la chose au néant. Et ce qui a été oublié, à un moment donné, ben, ça vient retravailler le sujet, des fois dans le corps. Le corps est vraiment le langage de l'inconscient. Et il y a un retour du refoulé. Et ce qui est intéressant, c'est dans l'histoire aussi. Parce qu'on s'aperçoit que certains événements dont on ne parle plus, dont on ne parle pas, tout d'un coup peut aussi, dans notre histoire collective, faire retour. Le fameux retour du refoulé, comme la récidive. Et ben, si c'est pas analysé, si c'est pas jugé, effectivement, ça revient, ça vient frapper de nouveau à la porte, comme si l'oubli qui pourrait paraître dans un premier temps comme ce qui serait nécessaire à l'existence, ben au final, le serait peut-être pas tant que ça. Il suffirait pas d'oublier pour pouvoir continuer à vivre.
Moi, il y a quelque chose qui me semble intéressant, c'est qu'en fait, beaucoup ont parlé de la mémoire individuelle. Mais là, l'individu, il vit dans une société. Et quand on a oublié quelque chose soi-même, on a aussi beaucoup d'informations qu'on peut aller chercher dans les bibliothèques. Quand on n'a pas de... Voilà, on peut aller chercher des références là-bas. Et en fait, tout humain vit forcément dans une société, quelle qu'elle soit, la plus petite soit-elle. Et je pense que c'est là-dessus que la mémoire et l'oubli ne peut pas se faire, parce que autour de vous, il y a des traces. Et vous êtes dans une société et non pas un individu sur une île déserte. Mm-hmm. Moi, il y a quelque chose qui me semble un peu évident.
Alors, j'avoue, j'ai un peu oublié ce que je devais dire. Ça se bouscule, en fait. Donc, comme ça se bouscule dans ma tête, à force d'entendre tout le monde... Je me dis que si j'avais justement, comme le monsieur l'envisage, qu'on était augmenté de manière que je n'oublie rien du tout, que j'ai mes 10 000 informations, 10 000 connaissances, etc., moi je crois que je serais un peu perdue, voire angoissée. Donc je ne sais pas du coup si ça serait vraiment le bonheur. Et puis pour dire par rapport à tout ce que j'ai entendu depuis... le moment où je voulais prendre le micro, c'était pour dire qu'en fait, d'une manière judicieuse, effectivement, l'oubli, c'est un accident. Mais dans ma vie, il y a quand même bien des oublis, l'oubli de mes clés qui m'ont permis de faire des rencontres avec le voisin, la voisine. Voilà. Et ça a été nécessaire, en fait. Ça a été chouette. Et du coup, pour extrapoler, je me disais, quelle place a l'accident ?
Et est-ce qu'il est si accidentel que ça ?
C'était juste pour rebondir sur les mémoires collectives. En fait, l'accessibilité à la mémoire collective, elle vient d'abord de l'individu. On peut pas accéder à une mémoire... de ce qui s'est passé il y a 150 ans, 200 ans, s'il n'y a pas un intérêt personnel à aller chercher. Et puis, on a nos,
nos dirigeants, nos gouvernants, qui font leur histoire, et nous, derrière, on a notre histoire peut-être, hein, l'histoire qu'ils veulent bien nous laisser entendre. Je ne suis pas complotiste, hein, mais je pense qu'il y a toujours une différence entre ce qui est réellement fait et puis ce qui est vraiment dit et appris dans nos écoles. Hein. Vous faisiez référence aux événements de 36-38 dans les journaux. Hein. Oui, tout à l'heure, oui. Par rapport à ce qui s'est passé dans les journaux récemment. Voilà, qui se rappelle. Donc il y a bien des index, un peu comme dans les ordinateurs, dans les mémoires d'ordinateurs, il y a des index qui permettent d'aller chercher l'information. Donc il y a des gens qui sont spécialisés pour chercher l'information et la transmettre à d'autres personnes. Mais si nous, on ne va pas chercher, on ne se branche pas sur le canal de communication, on ne peut pas se remplir, on ne peut pas accéder à ce type de connaissances, et donc on ne peut pas activer notre mémorisation. Et donc si on ne peut pas mémoriser, on ne peut pas apprendre, donc on ne peut pas oublier, quoi.
Est-ce que ça voudrait dire que pour mémoriser, encore faut-il vouloir, voilà, faire œuvre de travail de mémoire?
Alors, pardonnez-moi, je comprends la parole, mais j'ai envie de dire trois petites choses. La première, c'est le lien entre... On parle beaucoup d'oubli et d'émotion, mais on peut parler aussi de mémoire. Et en fait, on mémorise beaucoup mieux quand on a des émotions positives. Et quand on est heureux, on apprend beaucoup mieux. Et ça, c'est vraiment le message pour tous, et en particulier pour les étudiants. Si on veut faire de bonnes études, il faut avoir du plaisir dans les études et dans la vie tout court. Car quand on n'est pas bien, on n'étudie pas bien, on ne mémorise pas bien. La deuxième chose, c'est au sujet de la mémoire collective. Alors, la mémoire collective, on nous l'impose, en fait, elle est extrêmement manipulée. Par exemple, il n'y a qu'à voir l'évolution... la mémoire historique, si on lit la Révolution française par Michelet, si on lit la Révolution française par Bainville, la Révolution française par François Furet ou Soboul, mais c'est pas du tout la même chose, c'est même carrément l'opposé. Donc il y a une construction de la mémoire collective, et ça dans toutes les sociétés, et même présent, qui est évidente quand on prend un peu de recul. Et là, je sais... C'est même pas une question de mémoire, c'est une volonté de mémoire de la part du collectif, c'est-à-dire en fait des gens qui ont le pouvoir de définir ce que la société doit retenir. C'est une question de pouvoir. Et puis, dernier point, c'est qu'on a beaucoup parlé d'ordinateurs, mais en fait, avant les ordinateurs, il y a déjà les livres. On n'a pas besoin d'ordinateurs pour avoir une spécificité dans notre relation à la mémoire. Avec les livres, on a déjà une... Depuis le XVIIIe siècle, les gens le disaient, on a déjà une capacité de stockage quasi infinie. Donc l'informatique là-dedans n'apporte pas beaucoup de choses, sauf peut-être pour les vidéos, mais est-ce que ça apporte vraiment quelque chose d'avoir des vidéos? Je ne suis pas sûr dans la problématique que ce soit essentiel.
Oui, moi je voulais revenir sur monsieur d'ailleurs qui disait que ce serait bien d'être augmenté de tout ce qu'on peut croiser sur notre route, les livres, les connaissances, etc. Mais je pense qu'on est augmenté de toute façon, mais on s'en rend pas compte. Je me pose souvent la question, quand on a beaucoup lu des romans, qu'on a vu beaucoup de films, qu'on a fait des études, on a lu des essais, etc., on est incapable de régurgiter tout ce qu'on a lu, de raconter toutes les histoires qu'on a... côtoyer, tout ce qu'on a appris, on en est incapable. Et pour autant, ça nous construit inconsciemment, ça nous façonne et ça nous conduit à avoir des opinions, à prendre des décisions, à faire des choix, à expliquer certaines choses à nos enfants d'une certaine façon. Et on ne sait pas si c'est parce qu'on a lu Proust ou parce qu'on a lu Malraux ou parce qu'on ne les a pas lus ou qu'on a lu autre chose. Mais ça nous fabrique. Et on n'a pas conscience de ces souvenirs-là, précisément, mot à mot, point par point, on ne saurait pas dire j'ai telle sensibilité ou telle chose parce que j'ai été imprégné de tel ou tel truc. Mais c'est sûr que ça nous construit quand même. Et ça, c'est bien une mémoire qui fait qu'on n'oublie rien, je pense. Non, je sais bien.
Oui, il y avait mademoiselle là.
Mmh.
Moi, je trouve aussi que dans la mémorisation des choses, il y a aussi le biais de perception qu'on a tous, en fait. On met 50 personnes face à un même spectacle, on ne va pas tous retenir la même chose parce qu'on a des sensibilités, des appétences, et on a un historique différent qui fait qu'on va vivre ou ressentir les choses de manière différente. Et donc forcément, dans l'histoire collective, c'est pour ça aussi que vous disiez, si on lit la Révolution française sur telle personne, on va avoir des traçabilités complètement opposées et contradictoires, parce que justement, en fait, un même événement vécu par des personnes différentes va ressortir de manière différente. Donc c'est vrai que dans la mémoire collective, il y a aussi ce biais individuel en fonction de qui la raconte, auquel on ne peut pas échapper, en fait.
Pourquoi il y a des écoles historiques?
Alors, j'ai comme la dame, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, je pensais que l'être humain a une faculté presque naturelle à l'oubli pour certaines choses.
Une faculté
naturelle à l'oubli.
À l'oubli, oui. Ouais.
Et heureusement, parce que sinon, on vivrait dans le présent plein de souvenirs du passé, et puis ça, on serait toujours en boucle. Heureusement qu'on a cette faculté d'oublier. Mais ce que je trouve des fois dommageable, c'est que la mémoire est sélective. Et malheureusement, pour ma part, je trouve que des souvenirs qu'on aimerait oublier, mais qui nous reviennent toujours à la figure. Et par contre, des bons moments, on s'en souvient des fois, mais en fait, je me souviens plus souvent des mauvais souvenirs ou des choses un peu traumatisantes que des bons souvenirs. Et c'est ça que je trouve dommageable, parce que la mémoire est plus performante dans les mauvaises choses. Alors, c'est peut-être humain, parce que c'est peut-être une faculté de se défendre et puis de progresser. Peut-être.
De se préserver ensuite.
Aussi, ouais. Oui.
Merci. Je pense qu'il est vital et primordial de se souvenir des moments heureux, des fêtes. C'est peut-être pas beaucoup le cas pour certaines personnes, mais c'est très important de se souvenir même d'instants heureux, de moments passés avec la famille, des amis, autres. Voilà, il faut aussi, dans ce côté positif, dans des mauvais moments, repenser à des choses et qu'ils soient toujours non enfouis dans la mémoire, mais bien présents et rester lucides sur les choses qu'on a à vivre, heureuses ou malheureuses. Mais c'est très important de rester positif, lucide et de garder à la mémoire les mauvaises choses sur lesquelles également on peut se reconstruire, également les choses joyeuses. Rire, c'est très important. Rire, voilà.
Le sourire, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que dans les fêtes, voilà, où il y a beaucoup de joie et de bonheur, on prend des photos. Dans les moments de troubles et d'événements voilà, dramatiques, c'est pas la première chose à laquelle on pense de prendre la photo, hein, parce qu'on sait pertinemment que de toute façon, de ça, on va se souvenir. Le reste, moins sûr. Donc, on prend des photos. Et puis, on fait un petit calepin, et puis on met la date, etc. Pour être véritablement capable, ensuite, de trouver la trace de ces moments heureux. Ouais.
Oui, je voulais revenir sur le fait qu'on peut accéder au savoir à la fois par les livres ou par l'ordinateur. Et je me demande si une des grandes différences, quand même, c'est pas... qu'avec les livres, il y avait une certaine lenteur et on avait tendance à approfondir un sujet. Avec l'ordinateur, on a accès à tout instantanément. Et je me demande si ça ne favorise pas une certaine dispersion, une certaine superficialité.
Dans le rapport au savoir.
Oui, je suis tout à fait d'accord que on trouve tout dans les livres. Mais si je me projette dans 20 ans, dans 30 ans, l'humanité va être entourée de robots humains. Il y aura des hommes sur Mars. Qu'est-ce qu'ils doivent emporter ? Comment vivre ?
Ouais. C'était la fameuse question, hein, si vous étiez, si on devait vous isoler sur une île déserte, quel est le livre que vous emmèneriez avec vous?
Ouais. Oui.
Pardon. Monsieur, vous vouliez...
Non.
Vous vous souvenez plus?
Voilà.
Juste 10 secondes, parce que j'ai le micro. Il y a quelqu'un qui a dit juste à côté de moi qu'il avait parfois des souvenirs négatifs qui lui revenaient trop souvent. Mais ces souvenirs, il faut les accueillir, justement. Il faut accepter de ne pas essayer de les repousser et de les laisser venir. Et c'est comme ça qu'on résout un traumatisme. Et c'est comme ça qu'il s'efface. Enfin, que les conséquences s'effacent. Et ça marche, hein. Ça a été prouvé. Il y a plein de gens qui utilisent cette technique. C'est Carl, je ne me souviens plus, un Américain qui a fait ça. Et c'est Thierry Tournevis qui l'utilise beaucoup. Et ça marche. Donc il faut pas repousser tout le temps les souvenirs négatifs. C'est justement le signe que nous donne notre corps et notre cerveau en particulier. C'est le fil conducteur pour nous amener à résoudre un mal-être. Donc il faut l'accepter. Sinon, deuxième chose, c'est sur la mémoire collective. Il y a une personne qui a dit qu'effectivement, la mémoire collective, elle dépendait de chaque personne. Ça, c'est vrai par exemple, un attentat. Il y a 10 personnes qui sont victimes de l'attentat. Les 10 auront une vision différente. Mais ce dont je parlais tout à l'heure, c'était complètement différent. C'était vraiment l'histoire politique telle qu'elle est construite. Que ce soit Michelet ou Bainville, ils ont construit une histoire de la Révolution française à 99% avec 1% de faits, à des fins politiques pour faire avancer la cause qu'ils voulaient faire avancer. Et ça, c'est malheureusement ce qui se passe, et ce qui se passe d'autant plus maintenant depuis les années 80, c'est la politique même de la CIA. On construit, on ne cherche même plus à enjoliver certaines vérités, on construit la vérité. Il y a un très très bon documentaire là-dessus qui s'appelle Hyperréalisme, qui est fait par un journaliste de la BBC. Je vous invite à regarder. Mais la mémoire collective, c'est très intéressant, et c'est très intéressant dans toutes les sociétés.
Et donc là, l'idée, c'est de dire qu'il y a une manipulation de la mémoire collective.
Oui, il y a une manipulation, forcément. Voilà. Il n'y a qu'à voir la manière dont en France, on apprend l'histoire d'Allemagne, et dont en Allemagne, ils apprennent l'histoire de France. Et pareil pour la guerre d'Espagne, etc., etc. Et nous, on n'en a pas fini, ni avec l'entre-deux-guerres, ni avec la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et encore moins avec la colonisation. Donc il y a la volonté politique de cacher certaines choses pour protéger certaines personnes. Mais bon, c'est pas le sujet, donc je vais pas aller plus loin. Merci.
Oui, en fait, ce que je voudrais dire, c'est pas tant l'oubli, en fait, qui est nécessaire, mais je dirais penser de moins en moins à un événement, à une rupture. Y penser de moins en moins, en fait, ça permet de penser PANSER, la blessure, et non de la raviver quand les pensées reviennent. Et puis, ça permet aussi de pouvoir entrer dans une vie qui va nous permettre de nouvelles rencontres, et ce qui nous permettra, somme toute, de réaliser que cette rupture avait entraîné une mauvaise estime de soi-même, et qu'en rencontrant d'autres personnes, ça peut aussi montrer que voilà, je peux être une belle personne, et ça me permet, somme toute, de ne plus penser à toutes ces mauvaises choses que j'ai vécues. Mm-hmm.
Commencer une nouvelle vie.
Oui, en quelque sorte.
Ouais. Oui.
Moi, pour vivre, j'ai besoin de ne pas oublier. J'ai très peur d'oublier. Je suis en deuil en ce moment. Hein, mais ma hantise, c'est d'oublier ce deuil. J'ai besoin d'oublier pour vivre actuellement. Mais je crois, j'ai besoin de souvenir aussi ce que j'ai vécu en mai 68 pour aller encore plus. Hein, je suis fier d'avoir vécu ce que j'ai vécu. J'ai pas de problème à avoir des photos, parce que c'est mon histoire. Hein, et le deuil que j'ai eu, c'est mon histoire aussi. Avec avec ma femme. Donc ça, je tiens à le garder et ne pas l'oublier. C'est pour ça que je suis pas d'accord trop avec le fait de dire on a besoin, est-ce qu'on a besoin d'oublier? Moi, je pense que non. On n'a pas besoin d'oublier. Alors, il y a un autre terme aussi qu'on pourrait... On n'a pas parlé aujourd'hui. C'est la nostalgie. Mm-hmm. C'est un peu le même... est-ce que c'est un synonyme, je ne sais pas, de la mémoire, la nostalgie.
La nostalgie, bon. Et puis, oui, une mémoire de forme un peu romantique. Voilà.
Oui, par rapport à la mémoire collective, j'ai pu entendre que c'était... quelque chose de voulu, mais il me semble qu'il y a aussi des mémoires collectives qui sont, dont on n'a pas conscience, mais qui sont en nous. Tout comme il y a des mémoires familiales transgénérationnelles dont on n'a pas conscience et qui pourtant sont en nous et qui un jour ressurgissent ou pas. Mais on n'en a pas conscience.
Elles agissent. En fait, au sein du sujet.
Voilà.
Oui. Mm-hmm.
Alors, je vais vous remonter le moral. On est tous condamnés à l'oubli. Dans 100 ans, qu'est-ce qui, dans cette salle, est-ce qu'il y aura une personne, dans 100 ans, qui aura laissé quelque chose? Qu'on pourra dire, ah, on l'a pas oublié. Non, on est tous condamnés à l'oubli. Après, bon, c'est vraiment pessimiste ce que je dis, mais c'est la réalité. De toute manière, ne croyez pas que votre nom, sauf réception, sera gravé au 31. Et alors, il faut s'interroger, il dit, alors qu'est-ce que faire, hein? Nous voilà tous condamnés à l'oubli. Eh bien alors, si on est condamné à l'oubli, ben vivons l'instant présent, du mieux, et puis c'est tout. Bon, c'est une réflexion. Hein. De toute manière, il faut pas aussi se le voir la face. Hein. Voilà, on va tous au même endroit, hein, dans l'oubli. Mais avant d'aller dans l'oubli, que pouvons-nous faire?
Oui, c'est la fameuse phrase, les cimetières sont remplis de gens irremplaçables.
Oui, alors c'est vrai, on est tous individuellement soumis à l'oubli, enfin on va tous finir oubliés, mais à notre insu, collectivement, non. Puisque moi, il me semble que l'humanité, c'est la preuve qu'il n'y a pas d'oubli. Et je dirais que tout ce qui est culturel, tout ce qui se transmet effectivement de manière inconsciente, même dans la mémoire collective et après dans les familles, et qui font qu'on agit de telle ou telle façon. C'est un peu comme je disais tout à l'heure, selon les livres qu'on a lus, les films qu'on a vus, les gens qu'on a rencontrés, inconsciemment, ça gouverne nos vies. Et donc, c'est ce qu'on appelle le culturel, en fait. C'est des choses qui se transmettent, et c'est juste la mémoire. C'est la mémoire de l'humain et de l'humanité. Et on est incapable de dire c'est telle chose qui a produit telle autre chose, qui va en produire une autre dans 100 ans. Mais le fait qu'on soit là aujourd'hui, quelque part, il restera quelque chose de culturel qui se transmet à notre insu, qui fait que l'humanité avance. Je ne dis pas qu'elle progresse ou qu'elle régresse, mais elle avance. Et on ne sait pas expliquer quelquefois pourquoi, à tel moment, il va y avoir tel événement, collectif ou individuel, mais quelque part, ce n'est pas juste le hasard. C'est une succession de moments culturels, de choses, pas génétiques, mais on sait très bien que dans la je ne sais plus comment ça s'appelle, les trucs qui se transmettent, qui ne sont pas dans l'ADN ni rien, mais qui se transmettent de manière culturelle.
Épigénétique,
voilà. Mm-hmm. Voilà, on est tous le produit et le fruit de tout ce qui s'est passé avant.
Juste pour dire qu'il y a des commémorations pour justement qu'il n'y ait pas d'oubli sur, par exemple, sur l'esclavage, sur la guerre, mm-hmm. sur la colonisation.
Voilà, il y a des dates. Par exemple, pour l'esclavage, le 10 mai. Il y a plein de choses.
Et puis, il y a des institutions qui travaillent à ces commémorations, ou en tout cas à ce travail de mémoire.
Justement, c'est pour ne pas qu'on oublie certaines choses.
Oui, oui, oui. Et qui font un travail assez remarquable, notamment avec les scolaires aussi, c'est-à-dire à la fois qu'on n'oublie pas, mais aussi qu'on apprenne. Parce que, voilà, pour pouvoir se souvenir, encore faut-il avoir appris. Et donc, le mémorial de Nantes travaille beaucoup là-dessus, sur ce savoir de l'esclavage et lié à la ville de Nantes. C'est là où c'est intéressant aussi, c'est-à-dire... pour faire œuvre de mémoire, pour ne pas oublier, il faut le vouloir. Là, pour le coup, il y a un acte de volonté très très fort. Et c'est pas toujours simple. Parce que la mémoire, des fois, elle nous confronte à ce qu'on aimerait ne pas avoir fait, à ce qu'on aimerait ne pas avoir été. Nantes, voilà, grand port de l'esclavage français. Bordeaux, ville magnifique s'il en est. Mais oui, d'où vient la richesse de la ville? Sur quoi est-elle bâtie? Voir les choses en face, c'est pas toujours simple, ouais. Et même pour les nouvelles générations en fait, parce que du coup les idéologies ont changé, les mentalités évoluent, et tout d'un coup se trouver confronté avec une histoire qui est la sienne et dans laquelle se révèlent des éléments dans lesquels on se reconnaît pas ou on veut pas se reconnaître, c'est pas facile non plus, ouais.
Je crois que ça a été dit, c'est le devoir de mémoire.
Ouais.
Ce devoir de mémoire, en fait, on a l'impression qu'il est en train d'arriver. C'est l'exposition à Nantes, là, le mémorial de Nantes, il y a 15-20 ans, c'est impossible à mettre en place. Par contre, effectivement, les mémoires de guerre, de mort pour la patrie, des stèles, ça... Enfin, voilà, on essaie de valoriser ce qui est valorisable au niveau de l'État. Donc là, on voit qu'effectivement, la société avance. Ce devoir de mémoire, il est fait pour des gens qui ont été, enfin, je dirais peut-être pas des sous-hommes, mais qui étaient traités différemment, quoi. Et il y a encore un gros travail à faire dans toutes les classes de la population. Hein, pas forcément, je pense pas forcément à ce qui s'est passé au niveau de l'esclavage, mais ce qui se passe au niveau du travail humain, la pénibilité, enfin, des choses comme ça, où on peut faire un travail de mémoire. Hein. On prend les forges du 19e siècle dans le Forez, à côté de Saint-Étienne, par exemple. Effectivement, voilà, il y avait beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup d'hommes qui travaillaient fortement, quoi. Enfin, des femmes aussi.
C'est vrai qu'en France, le rapport à la colonisation, voilà, c'est là aussi tout un pan de notre histoire qui devra être mis au jour. Donc, travail de mémoire, c'est pas simple. Ça, c'est clair. Oui. Il y a le mémorial de Verdun. Oui. Oui, oui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, alors, sur le mémorial de Verdun, ce genre d'institutions sont importantes pour ceux qui ont vécu et qui restent et qui peuvent revenir sur les lieux des années après et qui peuvent venir se recueillir à la fois sur ceux qui sont décédés, mais je pense aussi sur leur histoire, quoi. Venir tricoter quelque chose de leur histoire pour que ça fasse sens. Parce que la question quand même de la mémoire, c'est peut-être pas simplement une accumulation de savoir, mais c'est aussi le fait de donner sens à une histoire, qu'elle soit individuelle ou collective.
Justement, je rebondis sur ce que vous dites. Il faut que l'histoire et la mémoire donnent sens et nous aident à vivre mieux dans le présent. Or, on parle de l'esclavage, mais là, on est dans une société hyper riche. On a des centaines de milliers de SDF, mais c'est d'eux dont il faut s'occuper maintenant. C'est pas aller pleurer sur un mémorial, etc., etc. Si on voit la misère ailleurs, si on voit la misère des ouvriers au 19e siècle, c'est bien beau, mais si ça ne nous sert pas à penser le présent, le devoir de mémoire, il ne sert à rien. parce que chaque cas est toujours différent et on verra toujours le présent comme quelque chose de très différent du passé, alors que si on pense ce passé, si on prend le temps de le voir pour ce qu'il est et pas simplement comme une photo de quelque chose qui s'est passé et qu'on mémorise, ça nous aide à penser à ce qu'on pourrait faire ou ce qu'on devrait faire au présent.
Oui, notre devoir est d'en tirer un enseignement de tout ça.
Ben oui. Ouais. Comment se fait-il qu'il y ait encore des guerres et qu'on pense des guerres utiles à notre époque, quoi ? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une guerre qui était gagnée par un peuple quand deux peuples étaient en guerre ? Aucune. Et pourtant, on justifie encore de nouvelles guerres.
Oui. Non, je voudrais juste faire un petit témoignage. En ce moment, je suis en train de trier des papiers parce que mon père va rentrer dans un institut. Et là, je lui force l'oubli. Et c'est horrible parce qu'il y a des diplômes de son père, des documents de la guerre, de ce qu'il a vécu, de son école. Je retrouve énormément de papiers puisqu'à l'époque, il ne jetait rien. Et là, je suis obligée de trier puisqu'il n'y aura pas la place. Il faut absolument faire. Et donc, là, j'ai encore jeté un monceau de papier. Et c'était une infinie tristesse. C'était pénible pour moi. Mais pour lui, je jetais à la poubelle. C'est vraiment le cas. Je jetais à la poubelle. En fait, toute sa famille, tout son passé. Et ça, il en avait besoin. Il savait que c'était dans une armoire. On ne peut pas tout garder. On a fait beaucoup de tri, mais c'est horrible de jeter à la poubelle sa mémoire, en fait.
Et ça, de façon plus générale, ça porte un nom, c'est la logique des archives. Voilà. Ouais.
Juste un petit mot par rapport à ce que vous dites sur le jeter. Il y a aussi une association qui récupère tous ces papiers, toutes ces mémoires, on va dire, et qui en fait effectivement l'histoire du peuple, et non pas forcément des élites. Mais ça existe, je crois que c'est dans le centre de la France.
Oui.
Oui, je crois qu'avant de discréditer la mémoire, il faut penser justement aux gens qui la perdent, à ceux qui ont la maladie d'Alzheimer. Alors, ce qu'ils perdent, c'est la mémoire immédiate. Généralement, ils gardent la mémoire de leur passé. J'ai le souvenir d'une femme qui était encore capable de jouer des sonates de Schubert, comme ça, sans partition et avec énormément d'émotion, mais qui pouvait vous poser 10 fois de suite la même question sans se souvenir de la réponse. Et en fait, on sait très bien que ces gens qui perdent la mémoire immédiate, en fait, ils perdent l'autonomie. Ils ne peuvent plus, ils ne savent plus se faire à manger, ils ne savent plus s'habiller, ils ne savent plus rien. Ils sont totalement en perte d'autonomie. Donc la mémoire, c'est quand même très précieux.
La mémoire n'a pas été discréditée.
Au contraire.
Oui, excusez-moi. Vous disiez, Marie-Claude, que la mémoire avait été discréditée. Elle n'a pas été discréditée, en fait. Il a été dit, en fait, que c'est bien réalisé. Oui, bien sûr. Ben oui, c'est important, bien sûr. Oui, allô? Allô?
Il a rendu l'âme.
Oui, non, c'était juste pour dire en fait que certes la mémoire c'est très très important et enfin je pense pas que ici elle ait été discréditée en fait. Voilà, c'est tout.
Un petit peu d'humour noir, parce que je pense vraiment que au moment de ma mort, quand la grande faucheuse va mettre sur la balance toutes mes méchancetés et toutes mes petites gentillesses, j'espère qu'il oubliera un peu de mes méchancetés. Mais bon, ça c'est. Non, mais pour parler plus sérieusement. En fait, quelque part, j'aimerais des fois m'oublier moi-même dans tout ce que je suis, dans tout mon quotidien, et puis essayer de parvenir un petit peu à être quelque chose d'un petit peu plus, comment dire,
une quintessence un peu plus bonne de moi-même, disons. Disons que là, je vais un petit peu dans des domaines qui sont un peu qui vont au-delà de la philosophie, mais en fait, oublier un peu ce que je suis au quotidien pour un petit peu m'émanciper et devenir un esprit un petit peu plus clair. Voilà.
Est-ce qu'on pourrait pas dire être un peu plus léger ? Voilà. Avoir moins de poids, s'oublier soi-même.
S'oublier soi-même, oui, mais en même temps, pas vraiment s'oublier soi-même, mais en fait, s'épurer de tout notre quotidien et s'épurer un petit peu, en fait, de tout ce qui nous. Tout ce que nous sommes. Mm-hmm. Et en fait, essayer de faire vivre en nous juste le plus beau qui est en nous. Et que nous, justement, nous avons oublié.
Ouais. Mettre au jour notre être.
Alors, pour revenir à la question, c'était l'oubli est-il nécessaire ? Je pense quand même que dans le cadre de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'un enfant qui a des difficultés à retenir n'est pas très encouragé en fait à apprendre. Et moi, je le vois maintenant parce que plus je vieillis, ben moi j'ai de mémoire. Et curieusement, je suis beaucoup plus de plus. Alors j'étais déjà quand même pas mal comme ça, mais si je vais voir une exposition, je suis essentiellement sur le ressenti. Voilà. Et même ma vie dans l'ensemble, je suis plutôt sur le ressenti parce qu'à quoi bon, je me dis, mais pourquoi savoir que ce tableau, il a été peint par tel peintre, en telle année, etc. Voilà. Donc, j'ai l'impression que moins j'ai de mémoire, plus j'oublie facilement. Moins je cherche justement à retenir bah, quel est le nom du peintre, etc. Et plus je vais sur le ressenti. C'est-à-dire, ce tableau, est-ce qu'il me donne du plaisir ? Est-ce que j'aime le regarder ? Éventuellement, il est tellement beau que je l'achèterai chez moi, etc. On est quand même dans une société de la connaissance qui cherche vraiment à faire des individus qui soient l'école, par exemple, hein, qui est plein de connaissances. Mais à un moment donné, le ressenti, ce que je ressens, le plaisir que j'ai, ben, je trouve que c'est quand même l'essentiel. Et du coup, pour moi, c'est peut-être nécessaire parce que plus ça va, plus je me moque et je me... Après, en même temps, c'est pas si vrai parce que mon côté égo et intellectuel, des fois, voilà, j'aime bien apprendre et puis dire que je connais ce tableau, le nom. Voilà. Mais quand même, plus ça va, plus je me lâche. Quand j'ai ma voisine de 80 ans qui me dit bah, « t'as bien raison de plus lire les petits détails et d'aller que dans les gros caractères et le titre. » Parce qu'au fond, dans 20 ans, tu t'en souviendras plus. Peut-être que tu verras plus. Voilà. Donc, soyons dans le ressenti, et puis, voilà.
Est-ce que le ressenti, il sort de rien, quoi ? Est-ce qu'il est pas une mémoire ? La restitution d'une mémoire ? Est-ce que ressentir du plaisir, du bonheur, sans s'en rendre compte même en regardant un tableau, est-ce que c'est pas parce que même si on n'a pas appris volontairement, est-ce qu'on n'a pas retenu consciemment, on n'a pas vu dans notre Lagarde et Michard, quand on était en cours de français, tel tableau de Fragonard ou autre, et que on se rappellera peut-être plus que c'est Fragonard, mais est-ce que l'émotion qu'on va ressentir devant un tableau, elle n'est pas née de ce qu'on a vu et de ce qu'on a ressenti au moment où on était en cours de français en voyant ce tableau il y a 50 ans ou 30? Et est-ce que le ressenti, c'est pas aussi le produit d'une culture et donc d'une mémoire ? Je pense qu'on ne ressent pas tous les émotions de la même façon, mais les émotions premières, elles existent, la peur, le plaisir, chez tout le monde. Mais je pense pas qu'elles soient convoquées, elles ressurgissent par hasard. Elles sont liées à un vécu, donc pour moi, à une mémoire qui n'est pas consciente. Mais je... Voilà, même pour ressentir des émotions, et même si ça fait plaisir, ça ne vient pas du néant.
Oui, je suis d'accord. Je pense que la mémoire a une couleur temporelle. C'est-à-dire au moment où on voit quelque chose, on retient quelque chose, c'est lié à l'événement, c'est lié à ce qui nous entoure, c'est lié au bruit qu'il y a, à la musique qu'il y a. Donc,
Est-ce que quelqu'un veut intervenir avant la conclusion ? Non ? Alors, vaste sujet en fait. Dans tout ce qui a été dit, ce qui me vient, c'est question pour un champion. Oui. Vous vous souvenez de question pour un champion ? Je ne sais pas si ça a toujours lieu, mais on vous lit une question relative à la culture, de quelque ordre qu'elle soit. Vous avez un champignon et le but, c'est voilà. Celui qui se souvient le plus rapidement et qui est capable d'appuyer sur le champignon, voilà, lui, il a une mémoire extraordinaire et c'est extrêmement utile dans la vie parce qu'en prime, vous gagnez un beau chèque quand vraiment vous avez une culture élargie et que vous avez cette rapidité d'exécution pour pouvoir répondre des fois avant même que la question ait été finie d'être posée. C'est extraordinaire quand même. Et on appelle ça un savoir encyclopédique. Et c'est intéressant, un savoir encyclopédique, parce que, en fait, c'est ce savoir qui est accumulé, c'est ce savoir qu'on peut trouver dans une encyclopédie, qu'on apprend par cœur, et qu'on est capable de reproduire comme tel. Voilà. J'appuie sur le bouton. Or, dès le 4e siècle avant Jésus-Christ, dans le mythe de Teute, Platon nous apprend qu'un tel savoir est peut-être dommageable pour l'humanité. Et qu'à partir de ce moment-là, la naissance de l'écriture, la naissance du livre, Platon dit, mais c'est peut-être une des premières malédictions que l'humanité se donne à elle-même. Et c'est intéressant parce que quelle est la raison pour laquelle il y a cette condamnation de l'écrit chez Platon dans le Phèdre de Platon ? Un ouvrage, un livre, quand même. Quelle est la raison pour laquelle il y a une telle critique ? Parce que Platon dit « ça va amener les humains à perdre la mémoire ». En fait, le support, le disque dur de mon ordinateur, loin d'augmenter la mémoire humaine, en fait, elle la réduit considérablement. Parce que, comme dit Platon, qu'est-ce qu'on fait avec la mémoire ? La mémoire humaine, on l'externalise dans un outil. Et donc, en l'externalisant, ça développe quoi en nous ? Ben, en fait, ça développe la paresse. La paresse de notre mémoire interne, c'est-à-dire de la nécessité qu'on a de pouvoir se construire par nous-mêmes notre propre mémoire. Et donc, de faire cet exercice d'apprentissage, qui n'est plus l'exercice d'un apprentissage encyclopédique, c'est pas de pouvoir lire un livre et de pouvoir le reproduire mot à mot qui est intéressant. C'est de pouvoir lire un livre, de s'en souvenir à tel point qu'on soit capable d'en discuter ensuite entre nous, de le reformuler avec nos propres mots. Qu'est-ce qu'on a compris ? De ce que l'on a lu. Qu'est-ce que j'ai compris quand j'ai lu le mythe de Teute de Platon ? Qu'est-ce que je suis capable ensuite d'aller enseigner à mes élèves ? Qu'est-ce que mes élèves sont capables d'en comprendre ? Et en d'autres termes, tout d'un coup, la connaissance, c'est plus la connaissance qui me permet d'appuyer sur un champignon, mais la connaissance, c'est une connaissance qui permet à un individu de devenir capable de penser par lui-même. De devenir capable de ressentir par lui-même, d'oser accueillir les émotions qui peuvent naître en lui à la vue d'un tableau, indépendamment de savoir si le tableau c'est celui d'un grand peintre ou pas, d'un peintre du dimanche, et d'être capable de l'apprécier et de l'intégrer dans une mémoire personnelle qui en fait le choix. qui va venir sélectionner ce souvenir-là et non pas nécessairement ce que j'ai pu penser 3 secondes avant et ce que je vais pouvoir manger 4 heures après avec mes amis où ça pourra tomber dans l'oubli parce que ça ne sera pas significatif dans la manière par laquelle je peux me construire moi-même en tant qu'individu. Je peux donner un sens à mon existence, faire de moi la personnalité que je suis. Et du coup, on s'aperçoit qu'effectivement, la mémoire, elle est fondamentale parce que peut-on dire réellement que nous sommes autres que ce que nos souvenirs font de nous ? C'est vrai que là, quand on est confronté à la pathologie, notamment à la pathologie d'Alzheimer, on s'aperçoit que quand un sujet se met à perdre, non pas la mémoire, mais sa mémoire liée à sa vie personnelle, en fait, le sujet s'éteint. Et ma mère qui est dans son lit, ben oui, le corps c'est encore elle, mais si elle n'est plus capable de me reconnaître et de parler de ce que nous avons vécu en commun, ben ma mère, en fait, elle s'efface. Elle est là, mais c'est qu'un corps. Elle est effacée. Donc la mémoire, elle est absolument fondamentale pour la construction des êtres que nous sommes, mais c'est vrai que la mémoire, elle ne se contente pas d'accumuler des souvenirs qui seraient en fait pensés sur le mode de la fixité, comme si ce que nous avions vécu avait un sens déterminé, celui-là seul, qu'il suffirait de prendre l'événement, de le mettre dans la case, et que la mémoire serait une suite de cases comme ça, qui se suivraient chronologiquement. La mémoire, en fait, elle se recompose constamment. Ce que j'ai vécu à 20 ans comme une rupture dramatique, en fait, à 40, le souvenir est toujours là, mais peut-être, mais heureusement que la personne m'a quittée. En fait, si je la recroisais à l'heure d'aujourd'hui, je la remercierais. Merci d'être partie. Donc, quelle libération. Donc, ce qui a pu être vécu sur le mode dramatique, en fait, se révèle au final peut-être la chance de ma vie. Donc, le souvenir se voit en fait recomposé. Il s'inscrit dans une existence dans laquelle il prend sens. Et ce qui est vrai au niveau individuel est vrai aussi au niveau collectif. Jusqu'à présent, on pensait par exemple que l'histoire, c'était l'histoire des vainqueurs. Puis on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a peut-être une histoire vue du point de vue des vaincus. Et le travail aujourd'hui des historiens avec cette prise de conscience, c'est de dire mais comment on peut réécrire l'histoire qui ne soit ni une histoire des vainqueurs, ni une histoire des vaincus, ou qui soit l'histoire et des vainqueurs et des vaincus. Enfin, tout le travail est à faire. Et on s'aperçoit du coup que la mémoire, c'est ce qui permet de poser une identité individuelle et collective, j'ai envie de dire d'entités qui sont vivantes. C'est-à-dire ma mémoire, elle se remodifie tant que je suis vivant, c'est-à-dire en fait tant que j'ai un avenir. Mais quand je serai sur mon lit de mort, 2 secondes avant de mourir, là pour le coup ma mémoire, elle viendra se fixer. Voilà ce que j'ai été, oui, je pourrais faire l'objet d'une biographie, voilà, et c'est la biographie qui me fera rentrer dans l'histoire, qui fera peut-être que mon nom restera, ou pas. Alors, c'est vrai que comment ne pas être effacé, c'est-à-dire, à partir du moment où je ne suis plus maître de la mémoire, où c'est plus moi qui l'origine, à partir du moment où je ne suis plus, qui me fait être ? En fait, je reste vivant dans la mémoire de ceux qui m'ont aimé, en tout cas je l'espère, de ceux qui sont encore là et qui vont me succéder, je l'espère. Et comme ça peut être aléatoire, Platon encore disait, il y a 2 façons d'être immortel. La première, ce sont les enfants, parce que les enfants peuvent se souvenir de nous. Puis la seconde, c'est de faire œuvre, donc écrire, le Phèdre. Faire œuvre, peindre, faire œuvre, avoir peut-être une action dans la société civile, au sein d'une association. Enfin, bref, faire quelque chose qui a pour vocation de nous survivre, en fait. C'est-à-dire passer ce fameux témoin, qui nous inscrit dans une collectivité. C'est-à-dire, en fait, la mémoire, d'une certaine manière, on se rend compte qu'elle est collective ou elle n'est pas. Et si la mémoire n'est plus, en fait, les êtres que nous sommes s'effacent. Le jour où il n'y aura plus d'humanité du tout, le problème de l'oubli se posera plus, hein, le problème de la mémoire se posera plus. Hein. Donc c'est bien, ce problème de la mémoire se pense bien au sein d'un collectif qui perdure d'une manière ou d'une autre, mais du coup, que doit-on retenir dans cette mémoire? Est-ce que la mémoire est mémoire de tout? Alors, vivre, c'est être un individu, avoir une identité, mais vivre, comme on l'a tout de suite posé en tout début de Café Philo, c'est peut-être aussi être heureux. Et comment être heureux? Nietzsche disait, c'est assez simple, le bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est l'oubli. C'est l'oubli. L'oubli de quoi? Mais peut-être justement l'oubli de soi. Parce que la mémoire, ça peut être un véritable fardeau, un poids qui pèse sur les épaules et qui m'assigne à quoi? Mais j'ai presque envie de dire qui m'assigne à mon identité, c'est-à-dire à être qui je suis, c'est-à-dire aussi qui mon passé a fait de moi. Et donc, si on arrive à oublier tout, bah, tout d'un coup, oui, il y a cette légèreté de l'être qui m'amène à un total décentrement de moi-même, ne plus être là où je suis, ne plus être qui je suis, mais pouvoir être pour l'autre, être ouvert à l'autre, être ouvert à la pure altérité, au pur concept, indépendamment, encore une fois, de tout ce que j'ai pu vivre, de tout ce que je peux amener avec moi, de tout ce que j'ai pu ressentir. Et donc l'oubli comme liberté. C'est pas ne plus être soi, mais ça serait être pleinement soi, parce que vivre, c'est pas vivre dans le passé, c'est pas vivre dans le futur, c'est être ici et maintenant. Et pour être attentif, ne serait-ce qu'à ce qu'a fait Philo, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut être concentré. Et voilà, pour être ici et maintenant, ben, faut avoir oublié l'avant, l'après, faut être capable de se focaliser sur ce moment-là. Et ça, est-ce que c'est simple? Ben, la réponse est non. C'est un vrai travail sur soi qu'être capable d'un tel oubli, parce que le passé vient frapper à la porte, le passé est fracassant, les souvenirs négatifs reviennent constamment. Enfin, il y a de la souffrance, quoi. La vie n'est pas une vie de bonheur, c'est une vie de souffrance. Et la souffrance, on la traîne avec soi. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Les gens malheureux, on en écrit des livres et des livres et des livres. Mais pourquoi est-ce qu'on écrit peut-être sur le malheur? Mais parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et on se dit que peut-être si on l'externalise, j'arriverai à sortir la chose de moi et à faire qu'elle ne soit plus en moi. Enfin, pouvoir m'en débarrasser. L'oubli, est-ce que c'est pas cet autre nom de cette capacité à pouvoir se débarrasser, à pouvoir faire que ce qui a été n'ait pas été? Et en fait, là, on se rend compte qu'il y a une totale illusion. Ce qui a été, a été. Et donc, ça a une incidence. Et je ne peux pas vivre ou faire comme si la chose n'avait pas été. Alors du coup... comment faire avec ça? Comment faire pour s'en libérer? Ben, plutôt que de l'oublier, s'y confronter. S'y confronter, l'analyser, peut-être le revivre dans des situations autres qui font que tout d'un coup on s'aperçoit que ce qu'on avait cru être insupportable, ben, est peut-être supportable. Et ça, l'étude des grands traumatismes à donner un nom sur cette capacité à vivre avec, c'est la résilience. Alors, la résilience, qu'est-ce que c'est? C'est pas un oubli qui serait refoulement, parce que le refoulement, encore une fois, il revient constamment frapper à la porte, il y a toujours un retour du refoulé. Mais la résilience, c'est cette capacité à pouvoir prendre de la distance, C'est-à-dire, effectivement, la chose, elle a été vécue, la chose, elle est, la chose, elle me constitue dans l'être que je suis et peut expliquer la personne que je suis devenue depuis, mais c'est plus ce qui m'empêche de vivre, c'est plus ce qui m'attache à elle. Et là, on voit, du coup, que dans cette capacité de résilience, en fait, c'est dans cette notion d'être capable de se détacher de soi, de se mettre soi-même à distance tout en se reconnaissant être soi, que résiderait très certainement à la fois la liberté de l'individu, l'identité de l'être que nous sommes, parce que du coup je peux la choisir, je ne suis plus assignée à mon passé, voilà, et puis en même temps la légèreté qui permet de respirer, quoi, de partir sur les hauteurs, et comme disait Nietzsche, de monter en haut de la montagne, pas des collines, mais de la montagne, de sortir de la pollution, là, de tout ce qui nous pèse, qui nous gangrène, qui véritablement nous cloue au sol, pour respirer l'air pur. Voilà, des zéphyrs. Voilà. Merci. Donc maintenant, je vous propose l'oubli dans une petite boisson, hein, Vino Veritas. Et si vous pouviez, oui, nous aider à remettre en place les chaises, s'il vous plaît. Comment faut-il les mettre, Marie-France? Donc on met les chaises autour des tables.
D'accord. Merci.